Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma. Des violents combats ont opposé ce lundi les FARDC au M23 sur deux fronts dans le Rutshuru et le Nyiragongo au Nord Kivu. Aucun bilan disponible pour l'instant. Selon des sources sur place, l'armée aurait empêché l'ennemi qui tentait de prendre le contrôle de certaines localités du groupement de Kibumba. Diabète, éduquer pour protéger l'avenir, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Occasion pour le programme de lutte contre le diabète d'organiser à Kinshasa une matinée scientifique, des séances de sensibilisation et un dépistage volontaire gratuit du diabète. Et puis, l'invité de ce soir, Meshak Biloubi, maire de la ville de Bukavu. Il parle notamment de l'opération de démolition des maisons construites sur des sites inappropriés dans trois communes de la ville de Bukavu. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. Les combats ont opposé toute la journée de ce lundi les FARDC aux rebelles M23 sur deux fronts dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Le premier se situe dans la localité de Kigeri, groupement de Kibumba, le territoire de Nyiragongo. Le second s'est déroulé à Kalengera, dans le groupement de Kisigari, territoire de Rutshuru. Aucun bilan n'est jusqu'à présent disponible. Les sources civiles indiquent que l'armée aurait empêché l'ennemi qui tentait de prendre le contrôle de certaines localités du groupement de Kibumba. Jusque cet après-midi, des tirs sporadiques ont été entendus, notamment autour du village Mwaro, entre les groupements de Kibumba et Bumba, une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, rapportent des sources sur place. Pré-consultation du processus de paix de Nairobi 3. L'ancien président du Kenya, désigné facilitateur du processus de Nairobi par la communauté de l'Afrique de l'Est, a reçu ce lundi la classe politique congolaise, notamment les deux chambres du Parlement, ainsi que les représentants des différentes communautés venues du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Uhuru Kenyatta reçoit ses différents partenaires pour ensemble définir les pistes de solution aux problèmes de l'insécurité dans l'Est du pays, ceci avant les travaux proprement dits de Nairobi 3 qui vont reprendre dans quelques jours. Pour Evariste Faoumé, acteur de la société civile et point focal du processus de Nairobi dans le Sud Kivu, qui s'est exprimé à Radio Kapi après l'audience aux communautés de cette province, il est temps d'analyser les causes profondes de l'insécurité pour espérer à une paix durable dans la région. Evariste Faoumé le dit au micro de Grâce Amzati.
L'idée centrale, par exemple, en termes de recommandations, c'est de demander aux facilitateurs de l'EAC d'avoir un groupe de travail, parce que c'est un conflit qui a beaucoup de complexité et qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de lucidité pour essayer d'accompagner les Congolais et les États de la région à aller vers des solutions durables de paix, de stabilité et de développement. L'autre recommandation était d'associer les acteurs de la société civile, les communautés, comme on l'a fait, dans un partenariat bien développé pour que les questions de paix ne se limitent pas seulement à la participation de groupes armés, mais intègrent aussi des acteurs clés qui vivent au quotidien les affres de la guerre, qui sont des victimes directes de conflits. J'espère fortement à la paix parce que plus on essaye de décortiquer toute la problématique, on essaie de comprendre les causes les plus profondes, les causes sous-jacentes du conflit, parce que ça c'est la condition première de commencer à chercher du remède à ces conflits.
Et puis cette tension à Kinshasa au sujet de l'embargo sur les armes, alors que certains partis politiques et mouvements citoyens envisagent de manifester contre la communauté internationale sur la question, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères met en garde la population face à toute action qui jouerait en faveur de l'ennemi de la RDC. Dans une interview accordée à Radio Kapi à partir de Luanda en Angola où il se trouve, Christophe Lutundula reprécise ses propos mal interprétés, dit-il, le vendredi dernier concernant l'embargo sur les armes. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Bien que la RDC n'est plus sous embargo d'armes, les restrictions des notifications imposées aux vendeurs et aux transporteurs empêchent au gouvernement congolais de s'approvisionner facilement et rapidement en armes, précise le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.
Je crois que tout le monde sait que nos approvisionnements en matériel et autres équipements militaires, particulièrement les armes, sont soumis à la restriction des notifications au comité de sanctions. Et j'ai précisé dans mon intervention que ce n'est pas nous qui faisons la notification, c'est les vendeurs, les fournisseurs. Je ne fais que reprendre ce que tout le monde sait.
Face aux tentatives de manifestations politiques contre la communauté internationale en RDC, le vice-premier ministre des Affaires étrangères appelle les Congolais à la vigilance.
Il faut éviter de tomber dans les pièges des ennemis de la République qui veulent que nous soyons en opposition avec les Nations Unies, la communauté internationale. La démarche est en cours. Moi-même, je venais d'écrire ces jours au président du comité des sanctions. Ça va se résoudre.
Pour Christophe Lutundula, toute manifestation contre la communauté internationale risque de saper les efforts diplomatiques du gouvernement et jouer en faveur de l'ennemi de la RDC.
Retour au Nord Kivu. La zone de santé de Nyiragongo enregistre une prévalence élevée des cas de malnutrition dans les différents sites de déplacés. Cette malnutrition affecte plus les enfants de 6 à 59 mois ainsi que les femmes enceintes. Le bureau chargé de la nutrition au niveau de cette zone de santé demande une intervention rapide, surtout en faveur des femmes enceintes qui n'ont pas des suppléments alimentaires appropriés. Rosalie Zawadi, reportage.
Ce petit garçon se débat entre les mains de deux agents de santé qui essayent de l'allonger sur une toise pour prendre sa taille. Ces agents ont également prélevé son périmètre brachial, des mesures qui vont leur permettre d'avoir son état nutritionnel. William Mwira, Point Focal Nutrition, dans la zone de santé de Nyiragongo, explique que les statistiques encore provisoires présentent une situation alarmante.
On a enregistré 49 cas de la malnutrition aiguë sévère pour les enfants de 6 à 59 mois. On a aussi enregistré autour de 62 cas de la malnutrition aiguë modérée de cette tranche d'âge. Mais aussi, il y a des femmes enceintes et allaitantes qui ont aussi un périmètre brachial inférieur à 230 qu'on est en train d'enregistrer.
Il indique que les enfants touchés par la malnutrition sévère et modérée reçoivent des suppléments alimentaires. Cependant, les suppléments alimentaires appropriés aux femmes enceintes malnutries ne sont pas disponibles. Monsieur Mwira craint des graves conséquences.
Et il peut y avoir des avortements, il peut y avoir des morts in utero. Donc l'enfant va mourir dans le ventre de sa maman parce qu'elle ne trouve pas à manger et que c'est à partir de ce que la maman mange que l'enfant aussi bénéficie.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Diabète, éduquer pour protéger l'avenir, c'est le thème de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie cette année. Plusieurs activités ont eu lieu à cette occasion à travers le pays. Ici à Kinshasa, le programme de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique, des séances de sensibilisation et un dépistage volontaire gratuit du diabète. Cela s'est déroulé à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, témoin de l'événement Innocent Fadili.
Pour le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie, il a souligné que cette journée a pour objectif de susciter une prise de conscience sur le diabète qui pose un véritable problème de santé publique. Véronique Kilumba-Nkulu.
Le diabète pose un véritable problème de santé publique dans notre pays par son double fardeau épidémiologique et économique et que différents facteurs, à savoir entre autres la modernisation, l'urbanisation rapide et la promotion agressive des aliments nuisibles à la santé contribue grandement à sa progression spectaculaire tant en Afrique qu'en RDC.
Le directeur du programme national de lutte contre le diabète, Dr. Luc Ferdinand Kamanga, a révélé que 1,4 million de personnes sont atteintes de diabète en RDC, dont plus de 250 000 à Kinshasa. Près de 100 personnes se sont fait dépister sur place. L'une d'entre elles témoigne.
J'ai fait le dépistage volontaire. Oui, le taux de sucre était dans les limites normales, mais la tension était un peu élevée. Moi, je ne savais même pas. Et on m'a fait la prescription. On m'a donné aussi les médicaments. Je vais aller prendre les médicaments et puis je vais revenir pour le contrôle.
Notons que le PNLD œuvre en collaboration avec 6 centres hospitaliers dans le dépistage et prise en charge gratuite du diabète du type 1 dans la ville de Kinshasa.
Rendons-nous au sud Kivu. Un éboulement de terre a fait 3 morts et un blessé grave dans la ville de Bukavu. Accident survenu dans la nuit de dimanche à ce lundi dans la commune de Kadutu. La société civile locale pointe du doigt les services de l'État qui seraient à la base des constructions anarchiques qui produisent ce genre de catastrophe. Emmanuel Elamenji, reportage.
Cet éboulement de terre s'est produit vers 23 heures de dimanche 13 novembre 2022 au quartier Kasali, avenue Rukumbuka. Alors qu'une forte pluie venait de s'abattre sur la ville de Bukavu, le mur d'une maison a lâché et s'est écroulé sur une maison voisine dont les occupants étaient en profond sommeil. Sur place, 4 membres de famille sont engloutis, faisant 3 morts et 1 blessé. Les corps inertes de la maman et ses 2 enfants ont été sortis des décombres ce lundi matin et acheminés à la morgue. La société civile de Kadutu dénonce ce qu'elle qualifie de complicité de certains services de l'urbanisme, habitat et cadastre. Ce sont eux qui octroient, selon la société civile, les titres parcellaires et l'autorisation de bâtir sur des sites dits impropres à la construction. Signalons que pareils cas d'éboulement de terre sont courants dans la ville de Bukavu, surtout en saison de pluie. Des maisons construites anarchiquement sont suspendues sur une pente avec le risque permanent de s'écrouler à tout moment. Jusque-là, le bourgmestre de Kadutu reste injoignable. Emmanuel Lamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Direction la province du Nord-Ubangi, 2 décès à la suite d'une évasion massive et spectaculaire ce dimanche à la prison centrale de Gbadolité. Les autorités déplorent que plus de 80 détenus aient réussi à s'échapper de la maison carcérale qui manque des latrines décentes. La garde a pu neutraliser 8 fugitifs par des coups de sommation, mais 2 des blessés ont succombé. Les autres sont à l'hôpital. Les autorités plaident pour la construction d'une prison digne du chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. Paul Richard Malengela nous en parle.
Selon le maire de Gbadolité, Joseph Molegbe, les détenus ont bousculé les gardes de la prison lorsqu'ils ont ouvert le portail pour l'évacuation des matières fécales. Sur les 150 détenus en place, 83 ont réussi à s'éloigner. C'est alors que la police de garde a ouvert le feu de sommation. 8 fugitifs ont été grièvement blessés, dont 2 morts. D'abord un réfugié centrafricain condamné pour vol qualifié mort sur les champs, puis un deuxième détenu congolais mort à l'hôpital général où ils ont été acheminés. Déjà la police a récupéré dimanche soir très évadés, parmi les 75 qui étaient en cavale. Le maire de la ville s'est félicité de cette capture, mais Joseph Molegbe sollicite encore l'appui de la population en vue d'aider à retrouver les autres évadés. Parmi eux, il y a des bandits, auteurs de plusieurs crimes, ce qui fait craindre une résurgence de l'insécurité dans la ville, a-t-il dit. Rappelons que la prison centrale de Gbadolité n'est autre qu'un compartiment de l'internat de l'ex-collège présidentiel du temps du fait le maréchal Mobutu. Faute de latrine dedans, les détenus se soulagent dans un bout de feu. Chaque matin, ils doivent aller déverser des matières fécales à l'extérieur. C'est pendant cette opération qu'ils en ont profité pour s'évader. C'est pourquoi le maire Molegbe plaide auprès du gouvernement central et de ses partenaires afin de construire une prison propre et digne au chef-lieu du Nord-Ubangi. Bandaka, Paul Chamalingue, la radio Okapi.
Et puis se voit la répétition des traverses de la SNCC sur la voie ferrée tronçant Kindu au Maniema, Kongolo, Kabalo dans la province du Tanganyika. Déclaration hier du responsable de la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC à Kongolo. Amuri Wamanyunga s'insurge contre ces actes de vandalisme. Il dit avoir alerté à plusieurs reprises les autorités politico-administratives du Tanganyika sur le risque d'un éventuel déraillement suite à ce vol des traverses, mais aucune réaction jusqu'ici. Le responsable de la gare de la SNCC Kongolo explique dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Les actes de vandalisme sont en train de se réaliser sur le réseau ferroviaire. C'est susceptible de nous créer des catastrophes. Depuis un certain temps, nous avons constaté que du côté de Tchengue, il y a des inciviques qui se permettent de récupérer les traverses. La locomotive ou le train est en train de suivre les 2 fils de rail. Et ces 2 fils de rail-là ne sont pas posés de manière désordonnée. Donc, ils respectent un certain écartement. Lorsque cet écartement s'élargit ou se rétrécit, il y a nécessairement un déraillement. Pour respecter cet écartement-là, il faudrait que les 2 fils de rail soient bien fixés sur les traverses. Alors, lorsqu'on commence à voler les traverses, les rails ne seront plus fixés, ils ne vont plus respecter l'écartement. Ça sera la catastrophe ferroviaire, il y aura un déraillement terrible. Nous continuons à parler, mais un jour ou l'autre, il y aura une catastrophe ferroviaire. C'est dans ce moment-là, peut-être, que les autorités vont se réveiller.
Dans l'actualité aussi, l'arrivée en Mbujima hier de la délégation du Fonds forestier national, conduite par l'administrateur directeur général de cette entreprise. La délégation est allée inspecter et faire le suivi de quelques projets de reboisement financés par ce service public avant l'ouverture de son antenne provinciale dans 4 provinces, dont le Kasaï oriental. Esther Ndalafina.
L'ordre de mission signé par le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable indique que la délégation conduite par l'administrateur directeur général dans les provinces du Kasaï Oriental, Kasaï Central, Kasaï et Sankoro va dans un premier temps inspecter et faire le suivi des 12 projets de reboisement financés par le Fonds forestier national au cours de la campagne 2022-2023 dans le cadre de 145 territoires. Il s'agit des projets accompagnateurs du programme du chef de l'État dénommé Jardin scolaire pour la plantation d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023 dans le but de faire face au changement climatique et favoriser la pleine restauration écologique. Le chef de la délégation a aussi précisé que sa mission est d'étudier les possibilités d'avoir une représentation de ce service au niveau du Kasaï oriental. Honoré Moulumba Kalala, administrateur directeur général.
Mais nous venons également pour étudier ensemble avec mon équipe technique la possibilité d'initier ou d'ouvrir une nouvelle direction ou antenne du Fonds forestier national ici au Kasaï oriental.
Signalons que cette délégation a été reçue ce lundi par l'autorité provinciale. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un étudiant zambien de 23 ans condamné en Russie et qui avait entamé une peine de prison dans la banlieue de Moscou a été retrouvé mort au combat en Ukraine, a annoncé ce lundi le gouvernement zambien. Ce dernier demande des explications à la Russie sur les circonstances dans lesquelles un citoyen zambien qui purge une peine de prison à Moscou a pu être recruté pour combattre en Ukraine et perdre la vie. L'État de Darfour, centre au Soudan, a décrété l'état d'urgence. Cela après que au moins 24 personnes ont perdu la vie lors d'un conflit tribal. Le gouverneur Saad Adam Babiker a affirmé que l'état d'urgence avait été décrété dimanche soir pour un mois.
L'invité.
Il s'agit du maire de la ville de Bukavu. Il nous parle de l'opération de démolition des maisons construites sur des sites inappropriés dans 3 communes de la ville. Meshak Biloubi réagit également à la position de la société civile urbaine interdisant aux propriétaires des engins roulants de payer les taxes péages sur les ponts et les routes urbains. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Il y a peu, la mairie avait déclenché une opération de démolition des bâtisses érigées sur des sites impropres partout dans la ville. Comment évolue l'opération?
L'opération évolue très bien, puisqu'en fait cette opération vise à exécuter l'arrêté de son excellence monsieur le gouverneur de province, Teongwabidjikasi, portant sur l'assainissement des agglomérations urbaines et rurales dans la province du Sud-Kivu. Et c'est cet arrêté qui dispose qu'il faut détruire toutes les maisons construites sur des sites impropres à la construction. Il y a 2 jours, nous étions sur le site Point Point, à Buolo 4, dans la commune de Kadutu. Nous avons démoli les constructions récentes et nous avons toute une liste de sites sur lesquels l'opération va continuer. Et cela dans l'objectif de prévenir les catastrophes. Nous avons démoli d'autres constructions au niveau de l'Elakat et nous continuons. Notre ville, c'est une ville montagneuse avec un sol qui n'est pas très très ferme et cela expose ceux qui construisent dans des sites impropres.
La démolition en question concerne-t-elle seulement des nouvelles constructions?
Nous commençons par les nouvelles constructions puisque les nouvelles constructions sont ce qu'on dirait la goutte qui fait déborder le vase.
En cas de résistance, comment l'équipe se comporte-t-elle?
Là où nous avons démoli, les gens résistaient. Nous utilisons l'escadron civil, qu'on appelle généralement la police d'assainissement. Mais nous sommes renforcés aussi par la police des districts, ville de Bukavu. Et aussi, nous faisons appel au PM. Et donc, nous avons une force publique que nous mettons au service de ceux qui se chargent des démolitions.
Une autre question d'actualité, monsieur le maire, comment interprétez-vous le refus de la société civile de se conformer au paiement des taxes de péage sur les ponts et les routes urbaines?
Effectivement, nous avons reçu la lettre du président du bureau urbain de la société civile qui exprimait le mécontentement de certains compatriotes vis-à-vis d'une taxe que nous venions de relancer, puisque c'est depuis 2019 que cette taxe figure sur l'ordonnance qui dispose de taxes, redevances et impôts aux entités territoriales décentralisées. Cette taxe est une taxe légale qu'on appelait jadis taxe voirie. Mais le législateur a changé la dénomination. Et il y en a qui pensent que dans la ville, il n'y a pas de pont. Mais c'est une taxe de traversée de ponts et de chaussées. Mais dans notre ville, il y a des ponts. La place de l'Indépendance, c'est un pont. Disons, si vous voulez quitter Kadutu pour aller vers Essence, vous traversez les ponts. Et donc, dans la ville, il y a des ponts et il y a aussi la chaussée. Et c'est cette taxe qui tient compte des réalités de toutes les villes qui a changé de dénomination, mais c'est une taxe légale. La mairie a droit de recouvrer cette taxe pour son fonctionnement, mais aussi pour les investissements dans la ville.
Et lorsque la société civile urbaine a pris son argumentation sur le fait qu'il n'y a pas de redevabilité, comment réagissez-vous?
Mais la redevabilité, elle est là. Le fonctionnement de la mairie lui-même, le fait que la mairie à des agents qui doivent être payés, des agents qui doivent utiliser des fournitures, des agents qui doivent être transportés, qui doivent être entretenus, soignés, tout ça, c'est déjà la redevabilité. Ceux à Bukavu, on veut que la redevabilité soit nécessairement dans les domaines où la taxe est perçue. Ce qui est une bonne chose. À Bukavu, chaque jour, nous évacuons les déchets pour rendre la ville propre. Nous balayons la ville. Et ça, ce sont les actions que la mairie mène en faveur de la population et en faveur de la ville. Et il fallait que la société civile nous approche pour dialoguer.
Et que donc les murmures de la société civile urbaine quant à ça ne poussent pas la mairie à reculer d'un seul iota.
La mairie ne devrait pas reculer puisqu'en fait c'est une taxe légale, une taxe dont nous avons pris toutes les précautions pour informer les assujettis. La mairie a droit au fonctionnement, a droit aux investissements et la mairie vit de taxes.
Monsieur le maire de la ville de Bukavu, nous vous disons merci pour votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.